L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Août 1956. Ciel bleu. Les enfants profitent des grandes vacances. Le linge claque au vent dans les petits jardins. À Marcinelle, comme chaque matin vers 7h, les mineurs de l'équipe de jour rejoignent le bois du casier. Ils s'apprêtent à descendre dans le puits pour aller en extraire le précieux or noir qui fait la richesse de la région, le charbon. Mais à 8h10, dans les entrailles de la terre, un accident se produit qui va dévaster la mine et les hommes qui s'y trouvent. 8h10, à moins 975 mètres, un wagonnet se coince dans la cage, déchire des tuyaux, entame la maçonnerie et provoque le drame. 8h10, c'est leur hache de mon histoire. Quand le drame survient, le 8 août 1956, le bois du casier est déjà riche d'une longue, très longue histoire. Et remontons le temps, si vous le voulez bien. C'est le 30 septembre 1822 que la concession houillère est accordée par arrêté royal hollandais de Guillaume Ier à Madame Eulalie Desmanet de Bièmes. L'endroit appartenait au baron Jean-Baptiste de Casier qui, mort sans descendance, lui lègue notamment deux bois, nommés respectivement Bonbois et Hublimbu, et situés sur la commune de Marcinelle, ainsi que la houille qu'il pouvait contenir. Madame Desmanet de Bièmes fait partie de la famille par alliance du baron de Casier. Elle partage l'héritage avec un neveu de ce dernier, René Albert de Casier. C'est en souvenir du baron que le bois est renommé Bois du Casier, le « de » s'étant sans doute transformé en « du » suite à une erreur de transcription. Et, comme de juste, la houille que les bois pouvaient contenir, ainsi qu'il est précisé dans l'acte notarié, est bien présente dans les entrailles de la terre Carolo. Il faut toutefois attendre 1861 pour qu'une société créée sous le nom des nouveaux propriétaires, Tournai, Dedecker, Brichard et compagnie, soit constituée. Cette dernière devient le 5 août 1874 la société anonyme du charbonnage du bois du casier. L'extraction du charbon va bon train, mais alors qu'elle est pourtant bénéficiaire, la mine est abandonnée en 1898. Pourquoi ? Parce que les dégagements de grisou sont nombreux et donc, évidemment, dangereux. Le grisou, la hantise des mineurs de fond. Ce gaz, composé à plus de 90% de méthane, est invisible et inodore. Il se dégage des couches de charbon et à plus forte dose encore quand l'or noir est fracturé. D'où l'importance capitale d'une bonne ventilation dans les différents boyaux de la mine. Nous y reviendrons. Le 4 février 1899, soit un an à peine après sa fermeture, la concession est rachetée par la Société anonyme des charbonnages d'Amercœur et exploitée par la Société anonyme du charbonnage du bois du casier. La mine reprend donc du service. Au fil des années et des différentes acquisitions, le site s'agrandit et prospère. En 1904, les concessions du bois du Casier et de Marcinelle Sud sont réunies. Puis, en 1910, c'est le bois du Prince qui s'ajoute à l'exploitation. En 1922, après deux nouvelles extensions, la superficie totale est de 875 hectares. Une fierté dans la région. Deux puits sont créés au début du XXe siècle et un troisième commence à être creusé en 1974. C'est le puits Foraki. Objectif, 1175 mètres de profondeur. Les travaux sont toujours en cours le 8 août 1956, tandis que l'on s'approche de leur hache. Depuis le Moyen-Âge, la Belgique est une terre qui produit du charbon. D'abord dans la région de Liège, où la mine de Blény-Trembleur fut exploitée jusqu'en 1980. Les bassins miniers s'étirent le long d'une ligne est-ouest qui va de Mons à Liège, en passant par la Louvière et Charleroi, et donc Marcinelle. La vie de mineur est rude, épuisante, dangereuse. Les conditions de travail sont pénibles et laisse des traces autant sur les visages que dans les poumons des hommes. Ces derniers sont souvent touchés par la silicose, maladie chronique due à l'inhalation de poussière de silice. Mais le charbon est rentable et il fait vivre de nombreuses familles. En 1840, les mines de charbon de Belgique sont d'ailleurs les premières valeurs étrangères cotées à Paris. Et si les patrons font tellement de profits, les mineurs sont bien décidés à se faire entendre. Des grèves éclatent régulièrement. On demande des augmentations bien légitimes. On exige aussi des journées de travail plus courtes. On avance à petits pas, mais les conditions de travail s'améliorent. En 1900, ce sont 23,5 millions de tonnes de houille qui sont extraites du ventre de la Belgique. Pour ça, il faut des bras, de la sueur, de la volonté. Si les travailleurs belges, francophones comme flamands, y sont présents depuis toujours, la main-d'œuvre vient à manquer. Et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait de nombreux morts et renvoyé dans leur pays d'origine nombre de mineurs. Et puis, il y a les ouvriers qualifiés qui, avec le temps, aspirent à une vie plus saine. Nombreux sont ceux qui ouvrent de petits commerces. Du coup, on se tourne vers l'étranger. Dans les mines belges, et donc au bois du Cazier, de nombreuses nationalités cohabitent. Grecs, Russes, Nord-Africains, Polonais et bien entendu, Italiens. Manopello, petit village des Abruzzes en Italie, voit partir nombre de ces hommes dans la fleur de l'âge. La vie chez eux est à ce point rude, voire misérable, qu'ils quittent femmes et enfants pour venir gagner leur pitance en Belgique, sorte de terre promise. Un beefsteak, on ne savait pas ce que c'était, raconte une mère italienne restée au pays. Au fil des années, au prix d'un dur labeur, ces immigrés peuvent s'acheter de petites maisons à quelques pas à peine de la mine. Et le 8 août 1956, ils sont nombreux à rentrer de vacances, les fameux congés payés, qui leur ont donné l'occasion de rentrer dans leur famille, de revoir leurs proches, leurs amis. L'ambiance est donc joyeuse dans la salle des pendus. La salle des pendus ? Ah oui, c'est comme ça qu'on appelle le vestiaire où les mineurs se changent, troquant leurs vêtements de ville propres pour leur bleu de travail et leur foulard rouge. La tenue propre est placée sur un cintre que l'on hisse vers le plafond, dessinant ainsi une petite colonie de pendus. Après le boulot, après la suie et la poussière, les mineurs passent à la douche et redescendent le cintre. Un rituel immuable. Mais pas le 8 août 1956. Il est 7h du matin quand Robert Barbieux arrive au bois du Cazier. Il se change, puis se dirige vers les cages. Les cages, ce sont ces ascenseurs qui mènent les mineurs au fond du puits et qui remontent les wagonnets remplis de charbon. Puis les renvoient, vides, vers les profondeurs de la terre. Robert descend peu après 7h pour commencer sa journée de travail. Vers 8h. Les mineurs de 975, comprenez l'étage situé à moins 975 mètres, descendent eux aussi. « Il y a le feu, Robert ! Faut remonter tout de suite !» lui disent-ils. Et effectivement, un nuage de fumée noire épaisse ne tarde pas à arriver. Robert et ses collègues tirent sur la sonnette qui permet d'appeler la surface. « On va demander la cage ! Il y a trop de fumée, on voit plus rien !» disent-ils encore. La cage arrive enfin. Les hommes embarquent et remontent au jour. À ce moment-là, pourtant, on n'a encore aucune idée de ce qui est en train de se jouer sous terre. Des incidents dans la mine, il y en a, si pas souvent, à tout le moins régulièrement. On s'y est presque habitué, on sait comment gérer. Sauf que ce jour-là, cet accident-là, personne n'y était préparé. Le 8 août 1956, 274 hommes devaient descendre dans la mine vers les différents paliers. Plus un cadre qui devait descendre à 1100 mètres. Ce qui nous fait 275 âmes. Dans les puits du bois du Cazier, les cages ne sont pas bien profondes. Dans chaque trou, chaque cage en compte 8, on peut faire tenir 5 hommes accroupis ou un wagonnet. À chaque arrêt, Les cages libèrent les travailleurs qui se répartissent dans les différentes ramifications, les différentes tailles de la mine. Ce jour-là, il faut 40 minutes pour acheminer chaque ouvrier dans sa zone de travail. Quatre coups de sonnette donnés par le tireur de surface et les cages s'ébranlent. À 170, un seul homme descend. C'est Germain Ouimard, le pompiste. Son job ? Surveiller la bonne marche des pompes, faisant remonter les eaux d'infiltration au jour. La cage se remet en marche. 27 hommes pour les niveaux 715 et 765. 89 hommes pour 835 et 907. Enfin, le gros de la troupe. 149 hommes descendent à 975 et à 1035. Les 9 derniers descendent jusqu'à 1100. On tire la sonnette et c'est reparti. C'est comme ça tous les jours que Dieu fait, dans les deux puits du bois du casier. Ils atteignent des profondeurs impressionnantes, 1175 et 1035 mètres sous terre, soit 4 fois la hauteur de la tour Eiffel. Ces deux puits, distants de 27 mètres, communiquent entre eux, l'un permettant l'admission de l'air, l'autre son évacuation. Les cages, deux dans chaque puits, fonctionnent en alternance afin de faire contrepoids. On l'a dit, un troisième puits est également en construction. C'est le puits Foraki, qui atteint déjà les 879 mètres. Il aura son importance. Nous y reviendrons. Dans la cage, ça plaisante, ça s'invective dans toutes les langues. Avant la longue journée au fond, c'est comme une dernière bouffée d'air frais. Ensuite, ce sera le bruit des compresseurs, des marteaux-piqueurs, la poussière. Il sera difficile de se voir, de s'entendre, de se comprendre. Parmi ces hommes, il y a Anatole Gonnet, un chef. Il est le surveillant de 1035. En cet été 1956, ses deux fils, Willy et Michel, toujours aux études, ont décidé de l'accompagner. « On veut apprendre le métier, papa, parce que nous aussi, on va travailler à la mine plus tard », lui ont-ils dit. Anatole, plutôt fier de sa descendance, ne se l'est pas fait dire deux fois. Dans ce labyrinthe souterrain, où il marche parfois jusqu'à 2 kilomètres depuis l'entrée du puits, au niveau 765, il y a la taille des Flamands. Tous les jours, ces mineurs font le trajet en bus depuis la région de Louvain pour venir extraire le charbon des veines qui courent sous la peau de la mine. Au jour, ce matin-là, Oscar Mauroy prend son service de tireur de surface. Cela signifie que c'est lui qui fait descendre le personnel. Puis, l'extraction peut commencer. Mais un appel lui parvient du 835. « Oscar, faut laisser un trou vide pour faire remonter 3 hommes de l'équipe de nuit qui ont été retardés. » C'est pas un problème. Oscar prévient le niveau inférieur, le 975, qu'il faut laisser un espace vide pour les mineurs. Nouveau coup de fil pour Oscar. Cette fois, c'est Alphonse Caillard, du 765. Il travaille dans la mine avec son fils Marceau, qui n'a pas 30 ans. Alphonse lui dit « Oscar, je vais avoir besoin de 2 translations pour remonter mes wagonnets de charbon. » Grâce au système de sonnette et grâce au téléphone, les communications sont simples entre la surface et les différents étages. Oscar appelle donc le 975 pour informer les envoyeurs, Gaston Vauzor et Antonio Yanetta, qu'ils vont devoir laisser des cages libres pour remonter le charbon du 765. « Pas de problème, » lui répond Vauzor. « Je n'ai plus de wagonnet plein et je dois aller au long plan pour en rassembler. Je te rappelle quand j'ai à nouveau du charbon à faire remonter. » Oscar Mauroy raccroche. Il ne se préoccupe plus de ce qui se passe au 975 et entreprend de faire remonter les wagonnets d'Alphonse Caillard depuis le 765. Henri Antignac, le machiniste du puits d'extraction, lance sa machine, mais elle se bloque. Il y a eu un choc dans la bobine. On va bloquer la machine et on va attendre, dit-il. À ce moment-là, Henri pense qu'un chariot est bloqué dans le fond, ce qui est déjà arrivé, sans grave conséquence. Oscar Mauroy, lui, se dit qu'il y a décidément quelque chose qui cloche.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous descendons dans le ventre de la terre, dans la mine du bois du Casier, où le 8 août 1956, 262 hommes trouvèrent la mort lors d'un terrible accident. À 975, pendant ce temps-là, Antonio Iannetta a quitté l'envoyage pour aller déplacer une berline de bois qui gênait la circulation des wagonnets. À son retour, il n'y a pas de cage à l'envoyage, mais cela ne tarde pas à arriver. 3 minutes après avoir quitté la surface, la deuxième cage arrive à 975. Mais elle ne s'immobilise pas précisément au niveau de l'envoyage, c'est-à-dire l'endroit où les wagonnets sont poussés à l'intérieur des trous. Pourtant, pour atteindre la précision dans les arrêts, on a équipé chaque étage d'une balance hydraulique qui fonctionne à l'huile. Une huile à 6 kg de pression, amenée d'un réservoir situé plus haut. Dans la déposition qu'il fournira plus tard, Antonio Iannetta expliquera qu'il a demandé à Vosor s'il pouvait charger et que celui-ci lui a répondu par l'affirmative. Or, Vosor venait de communiquer avec la surface, les informant qu'il partait pour le long plan afin de ramener des chariots. Iannetta n'est-il donc pas à ce moment-là au courant qu'il faut laisser des trous vides pour le 765 ? Quoi qu'il en soit, Iannetta engage le premier wagonnet dans la cage, mais la manœuvre se passe mal et le wagonnet vide ne parvient pas à sortir complètement. Antonio fait alors le tour pour aller libérer manuellement le chariot vide tandis que le plein dépasse encore de 35 cm de la cage. Puisqu'il n'a pas tiré la sonnette, il n'y a aucune raison que la cage remonte. C'est pourtant, hélas, ce qui va se passer. Lancé vers la surface, le wagonnet mal arrimé et dépassant de 35 cm heurte une poutrelle métallique de 3 mètres de long sur 125 mm de large. Le choc est d'une extrême violence. La poutrelle est tordue, sort de la maçonnerie dans laquelle elle est encastrée et tombe dans le puits. La cage s'arrête définitivement, bloquée. Quelques secondes plus tard, Antonio voit descendre de la fumée, des flammes, des étincelles. Alors, il se sauve vers l'autre puits et court vers les portes qui y donnent accès pour donner l'alarme. Vosor, lui, tente de s'échapper par une autre voie. À l'envoyage du deuxième puits, il y a 2 mineurs. « Il y a un incendie, faut remonter !» leur lance Antonio. Il est 8h10. Antonio tire la sonnette pour que la cage descende, mais elle n'est pas libre. Elle arrive finalement. Un étage est libre. Mais seulement, il y a, dans un autre trou, des mécaniciens qui doivent descendre jusqu'à 1035. L'un d'eux s'appelle Claude Quinet. Il est ajusteur. On vient de le prévenir que l'un des ascenseurs est en panne. Donc, il est descendu par le puits d'air. Mais il ignore pourquoi la cage est bloquée. Les hommes descendent donc. Il y a le feu à 975. Il faut libérer la cage pour sauver les hommes, prévient Antonio, avec son fort accent italien. La cage remonte au jour, Antonio sort et va immédiatement trouver Adolphe Calicis, l'ingénieur en charge des travaux de la mine. Antonio croise d'abord Jules Gilson, le surveillant de surface. Les deux hommes foncent vers le bureau d'Adolphe Calicis, qui est en train de planifier une visite d'inspection avec l'ingénieur du corps des mines, Philippe Dassargue. « Il y a eu un cassage de fosse, » leur dit Gilson. « Il y a le feu à 975, » précise Antonio. Tandis qu'Adolphe Calicis se précipite pour aller prévenir la centrale de sauvetage, Antonio, lui, dans un état de semi-hébétude, se change et rentre chez lui. Les cassages de fosse sont des accidents bien connus des mineurs et des ingénieurs. Ils sont même assez courants dans certaines mines creusées sur des terrains moins stables. Mais à Marcinelle, c'était pas le cas. Aussi, Philippe Dassargue et Adolphe Calicis comprennent vite que quelque chose de grave a pu se produire. Calicis file au carré pour voir ce qui se passe, tandis que Dassargue enfile son bleu, bien décidé à descendre dans le puits. Dans la mine, la fumée s'engouffre partout et des flammes montent dans le puits, par effet de cheminée. Mais surtout, l'essentiel du feu va descendre, attisé par l'air qui circule dans la mine. Les galeries au bois du casier sont très grandes et de gros ventilateurs intermédiaires ont été installés permettant à l'air vicié d'être aspiré vers la surface. Mais comment le feu a-t-il pu se déclarer? C'est la poutrelle métallique qui a tout déclenché en s'arrachant du plafond. Elle a d'abord sectionné une conduite d'eau, puis les cordons de la sonnette et les fils du téléphone empêchant toute communication avec la surface. Là-haut, on n'a plus aucun moyen de savoir ce qui se passe au fond. Ensuite, la poutrelle a sectionné deux câbles électriques de 6000 volts qui sont amenés vers le fond. Des disjoncteurs à la surface doivent permettre de stopper l'alimentation à tout moment. Sauf que la poutrelle a également heurté la conduite d'huile à 6 kg de pression qui alimente la balance hydraulique. De la fissure dans la conduite jaillissent des gouttes d'huile qui se dispersent alentour. Au contact de l'arc électrique, l'incendie se déclenche. Le feu est rapidement attisé par de l'air sous pression provenant d'une conduite, elle aussi éventrée. Tout cela a été si rapide qu'on n'a pas pu prévenir la surface. La chaleur au cœur du brasier atteint la température hallucinante de 1100 degrés. Au 1035, la ventilation s'est arrêtée. Le bouveleur, c'est-à-dire celui qui creuse les galeries, aussi appelé bouveau, entend un grand bruit. Carlo Fontaine, le surveillant du 1035, l'entend aussi. « Il y a plein de fumée dans les écuries !» lui fait remarquer Onorato Pasquarelli, le soigneur de chevaux. De chevaux ? Bah oui. Oui, en 1956, des chevaux étaient encore utilisés dans la mine. « Je sais pas ce qui se passe au-dessus, je vais téléphoner !» lui répond Fontaine. Mais les communications sont coupées. Alors, c'est à l'aveugle, dans la fumée âcre et sans lampe, qu'il suit les rails menant à la cage. Au même étage, Philippe de Tobel est lui aussi cerné par la fumée. Et lui aussi, à tâtons, rejoint la cage. « J'entends crier de l'autre côté, dit-il. Ça vient de l'autre puits. » Mais ils ne peuvent rien faire. Carlo Fontaine décide qu'il faut remonter. C'est la seule manière de sauver leur vie. Il rassemble le plus de monde possible, soit 7 personnes. La cage arrive. Il ne voit rien. Il faut sortir les wagonnets vides à l'aveugle. Après de longs efforts, ils parviennent à dégager le trou de tête. La fumée les fait suffoquer. Ils toussent, certains vomissent. « On va mourir !» dit l'un d'eux. « On va tous mourir !» Parmi ces hommes, il y a aussi le jeune Marceau Caillard. Il s'impatiente, car la cage ne remonte pas. Alors, il décide de sortir pour aller actionner la sonnette. Au moment où il l'atteint enfin, la cage repart. Marceau, lui, restera au fond. Dans le fond, les flammes s'engouffrent dans le bouveau. D'autant plus rapidement qu'elles ne rencontrent pas d'obstacle, si ce n'est quelques portes de sécurité en bois. Le feu ne tarde pas à les mordre, les unes après les autres. Au bout d'une heure, la voie est libre pour le brasier, qui s'engouffre dans le puits de retour d'air. À 8h30, la cage partie de 1035 arrive à la surface. 6 hommes, visage noir, marqués par la peur, sortent au grand jour. Parmi eux, Robert Barbieux, que l'on avait vu prendre son service, Guilloret, à peine 1h30 plus tôt. Il est sonné, presque étonné d'être encore en vie. Dans le carré, l'ouvrier en charge de faire remonter les cages ne cesse d'actionner sa machine. La cage monte, descend, s'arrête aux étages, mais personne n'embarque. La fumée, maintenant, a envahi la surface. « Faut mettre des lances à eau !» dit-il. Mais le câble tenant la cage se met à fondre et à brûler. La première cage tombe dans le puits à 9h30, puis ce sera la deuxième à 10h30. La situation est catastrophique.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous revivons le terrible drame qui a eu lieu au bois du Casier. Le 8 août 1956, 262 personnes y ont laissé leur vie. Les sauveteurs, pourtant, ont tout tenté pour les faire revenir à la surface. 10h15. On décide de couper la ventilation pour ne pas attiser davantage les flammes. Le temps qui passe, et qui joue en défaveur des mineurs, est crucial. L'heure est aux décisions. L'ingénieur Adolphe Calicis décide de ramener à la surface la cage qui s'y trouve, presque. Ensuite, il va botter le câble de la cage bloquée à 975. Des opérations que les ouvriers connaissent, puisqu'ils les pratiquent lors des travaux de maintenance. Mais cette fois, c'est dans l'urgence qu'il faut agir. La cage de surface est fixée. Ensuite, c'est le câble de celle qui a 975 qui est immobilisé, ce qui permet de s'attaquer à la machine d'extraction. On va sortir le câble de la bobine, en dérouler à la force des bras 125 mètres pour donner du mou avant de remettre le câble. Reste à détacher la cage fixée en surface. Et un petit miracle se produit. Elle descend, mais il est déjà midi. Voilà donc 4 heures que le feu s'est déclaré. Dans le ciel du quartier des Haies à Marcinelle, la fumée envahit le ciel. Des petits morceaux de charbon flottent dans l'air avant de se poser partout, laissant un voile noir de deuil déjà sur les vêtements, les visages, les maisons. Des femmes innombrables se retrouvent devant les grilles de la mine. Leurs maris sont au fond. Elles savent, elles sentent que quelque chose de terrible est en train de se passer. Parmi elles, il y a l'épouse de Cesare Di Berardino. Ce dernier a quitté l'Italie pour venir tenter sa chance en Belgique. Le matin du drame, Cesare ne voulait pas aller travailler. Sa femme était malade, elle avait de la fièvre et il s'inquiétait. « Ma sœur va s'occuper de moi, te fais pas de soucis », l'avait-elle rassuré. Alors, Cesare avait pris sa musette et s'en était allé rejoindre son destin. Accroché à la grille, entouré de centaines d'autres, sa femme est donc là en ce 8 août. Elle voit la fumée et comprend déjà qu'il n'y a plus rien à faire. La première équipe de secours descend enfin dans le puits aux alentours du midi. Ça n'a pas été facile de la faire arriver sur le site tant la foule est compacte dans les rues aux abords du site. Les sauveteurs s'équipent. Ils endossent leur Dräger, un appareil respiratoire doté d'une bouteille d'oxygène qui leur donne une autonomie de 4 heures et qui pèse 18 kilos. On descend par le puits en construction qui communique avec les autres à 765. Hélas, suite à un dégagement de grisou quelque temps auparavant, la liaison entre les puits a été coupée. On a toutefois laissé un petit passage que l'on appelle un trou d'homme, et qui dit bien ce qu'il veut dire. Un homme peut tout juste s'y faufiler. Oui, mais pas un homme avec un Dräger sur le dos. Trop large, celui-ci ne rentre pas. Il faudra longtemps pour élargir ce trou d'homme. Dans le même temps, on agit sur un autre front. Adolphe Calicis, l'ingénieur, décide de descendre. « Tant qu'on ne sonne pas, vous nous faites descendre, » dit-il. La cage progresse lentement. Ça sonne, puis ça ne sonne plus. Pourtant, la descente continue encore un peu. Quand enfin on prend conscience qu'il faut les remonter au jour, on comprend pourquoi le tintement s'est arrêté. Adolphe Calicis et Antonio Galvan, contremaître, sont tous les deux brûlés, touchés par des vapeurs d'eau. Pour tenter de dissiper le bouchon de vapeur qui s'est formé dans le puits et qui empêche toute progression, on met en marche des ventilateurs. Mais le temps s'égrène, inexorablement. Il est maintenant 16h30. Une nouvelle tentative de descente est amorcée. Antonio Galvan et les autres atteignent le niveau 170. Ils cherchent le pompiste, Germain Wilmar. Il est introuvable. Nouvel arrêt à 390, 500, 600. Rien. Par contre, à 715, il croit entreapercevoir une bonne nouvelle. Ce 8 août, à 7h du matin, Franz Lowy, l'un des flamands qui travaille au bois du casier, descend dans la mine. Il se dirige vers sa taille, comprenez, sa ramification. Avec les autres mineurs, ils se répartissent le travail. Vers 8 heures, il lui semble apercevoir de la fumée. D'abord un peu, puis ça se densifie. « Il se passe quelque chose, hein, faut remonter, » dit Franz. Il voit alors arriver d'autres mineurs, ceux qui creusent à la taille des flamants. Ils sont maintenant une vingtaine qui remontent à la queue-leu-leu, jusqu'à la côte 715. Respirer devient de plus en plus difficile. Et lors de l'ouverture d'une des portes, la fumée s'engouffre plus encore. Franz Loewy tombe, butant sur une trappe métallique. Il est inconscient, au sol, et cela lui sauvera la vie. Quand il reprend ses esprits, une heure plus tard, un tout jeune homme, Alphonse Van de Place, 16 ans à peine, est couché sur ses pieds. Franz est déboussolé. Il ne sait pas vraiment où il est. Il ne peut pas bouger, mais dans sa caboche, les idées filent à toute vitesse. Il se met à hurler. Il veut reprendre des forces. Franz s'assied, puis parvient à se relever. Il secoue Alphonse, qui revient à lui à son tour. « On peut pas rester ici, hein, gamin. Faut trouver une solution pour sortir, » dit-il. Les deux mineurs poussent une porte et découvrent un chariot rempli et coincé avant la porte suivante. Soudain, ils entendent des cris. « Il y a encore un homme derrière, » dit Franz. « Je retourne le chercher. » Ils sont donc trois maintenant dans le noir. Ils vident le chariot et se cachent en dessous pour échapper aux fumées toxiques. Combien de temps reste-t-il là? Envisageant leur mort, Franz ne sait pas. Tout brûle autour de lui. Dans sa tête, une phrase tourne en boucle. C'est la fin. C'est la fin. Pourtant, un bruit leur parvient. C'est Antonio Galvan qui est descendu avec Adolphe Calicis. C'est lui qui a entendu les gémissements et qui a envoyé le porion voir s'il restait des traces de vie. Franz Loewy, Alphonse Verrecken et Alphonse Van de Place auront la vie sauve grâce au courage insensé de ces deux sauveteurs. Il est 17h quand ils retrouvent enfin la lueur du soleil. La vie en somme. À la même heure, trois autres hommes, Albert Peers, Karel Voigts et Louis Salleutz, sont retrouvés vivants à 765 mètres. Le dernier, Louis, ne se souvient de rien. « Je me suis réveillé à la clinique, je comprenais pas », dira-t-il 20 ans plus tard, dans un documentaire pour la RTBF. Dans la soirée, un nouvel espoir s'empare des sauveteurs, des médecins et des infirmiers venus en nombre. Germain Wilmar, le pompiste, est retrouvé vivant à 170 mètres. On le ramène à l'infirmerie. Malheureusement, il est trop intoxiqué pour que l'on parvienne à le sauver. Il meurt dans les bras de Geneviève Ladrière, l'assistante sociale, que l'on avait surnommée là-bas l'ange du casier. Les sauveteurs travaillent sans relâche, même quand la nuit vient. Ils sont une vingtaine à se relayer dans les puits, à la recherche de survivants. Ce qu'ils découvrent, ce sont d'abord des chevaux morts, puis viennent les premiers corps. Rocco et Camillo Lezzi, tous deux arrivés de Manopello, sont parmi les premiers à être remontés. C'est à 2h du matin que la femme de Camillo, enceinte, reçoit le coup de fil qui lui demande de venir reconnaître le corps. Au fil des heures, la liste des victimes s'allonge. Les sauveteurs ne peuvent rien. Car le feu est partout. Même l'étage 715 est inaccessible. Alors qu'ils ouvrent une porte qui a résisté jusque-là, ils se retrouvent à 5 mètres des flammes. Le lendemain, les secours se fixent pour objectif de descendre jusqu'à 907 mètres. Les taux de monoxyde de carbone qui sont mesurés sont mortels et l'espoir de retrouver des survivants s'éloigne peu à peu. En fin de journée, vers 19h30, l'ingénieur Calicis donne un bilan provisoire. Il est de 8 morts, 13 rescapés et 254 disparus. Le roi Baudouin est arrivé sur place. On le briefe. Il rencontre des familles toujours accrochées aux grilles. Sur son visage, on lit l'effroi, on lit le chagrin. Et on comprend que le bilan sera forcément plus lourd, beaucoup, beaucoup plus lourd. le 10 août 1956. Le surlendemain du drame donc, des sauveteurs allemands et français viennent prêter main forte aux équipes belges. Ils apportent du matériel d'analyse pour les premiers et des moyens de communication plus modernes entre le fond et la surface pour les seconds. Le 13 août, tandis que se tiennent des funérailles officielles pour les 6 premiers morts de la catastrophe, on atteint l'étage 835. Là, les corps se comptent par dizaines. Enfin, le 18 août, on trouve un passage vers les étages inférieurs où 140 hommes sont restés prisonniers des fumées, des gaz toxiques et des flammes. Tout au fond, à 1035, Antonio Galván, qui connaît la mine comme sa poche, sert de guide aux sauveteurs. On découvre un message écrit à la craie sur une poutre de bois. On recule pour les fumées vers quatre paumes. On est environ 50. Il est 1h15. Gonnet. Anatole Gonnet. Et ses fils Willy et Michel ne survivront pas à la catastrophe. À 400 mètres de l'endroit où il a tracé ses mots à la craie, ses derniers mots, on découvre 50 cadavres. Les hommes sont morts asphyxiés, probablement lors de la remise en fonction de l'aération vers 14h. Nous sommes le 23 août, soit 2 semaines après la tragédie. Tout espoir de retrouver les survivants s'est envolé, vous vous en doutez. Je tiens à dire la grande solidarité, la discipline et la camaraderie qui ont joué entre sauveteurs et mineurs de toute nationalité, écrira Antonio Galván 30 ans après. On avait gardé espoir jusqu'au bout. Nous avons perdu. Et nous n'avons pu empêcher la mine de garder ses victimes. 30 ans après cette tragédie, je tiens encore à remercier ces hommes qui ont risqué leur vie pour tenter de sauver leurs camarades. Et je leur dis toute la fierté que j'ai d'avoir travaillé avec eux. Merci. Quelques mois après ce « jour le plus noir », comme on a pu le lire dans la Libre Belgique en novembre, Antonio Iannetta s'envole pour le Canada, où il a de la famille. On l'a accusé de fuir, parce qu'il se serait senti responsable du drame. Lui qui a engagé le chariot qui a provoqué la rupture de la poutrelle. Certains veulent sa peau, sont prêts à le lyncher. Pourtant, cela faisait plus d'un an qu'il avait contacté l'ambassade du Canada avec l'espoir d'y démarrer une autre vie. À Manopelo, on fait son deuil. Ce tout petit village, où tout le monde se connaît, où tous ont des liens familiaux avec tous, a payé un lourd tribut. 28 fils y sont morts le 8 août 1956. Dans le cimetière du village, on leur a construit un mausolée, simple, à l'image des hommes qu'ils étaient. L'Italie est le pays qui a dénombré le plus de morts au bois du casier. Plus de la moitié des victimes étaient arrivées en Belgique suite aux accords charbon signés en 1946. La catastrophe mit un terme définitif aux 10 accords. Et un blocage diplomatique entre les deux pays fut aussi à déplorer. Pendant des semaines, le drame de Marcinelle fera la une des journaux. Les radios seront nombreuses à envoyer des journalistes sur place et pour la première fois, la télévision couvrira un événement au jour le jour. Pierre Bellemare, qui présente sur Europe 1 l'émission « Vous êtes formidable », lance une grande opération de solidarité. Il récolte 28 millions d'anciens francs, soit près de 650 000 euros d'aujourd'hui. Ils seront versés aux familles des victimes, car la tragédie a aussi fait 204 veuves. 415 orphelins. Le souvenir de ce drame qui a marqué les esprits plus que tout autre dans notre pays est encore vivace, d'autant qu'au cimetière de Marcinelle reposent 14 corps que l'on n'a pas pu identifier, jusqu'il y a peu pour 2 d'entre eux. À la demande de Michel Sicora, le fils de l'une des victimes, les corps ont été exhumés en octobre 2021. On a procédé à des relevés d'ADN, mais retrouver des descendants si longtemps après s'est avéré très compliqué. Les restes de Dante Di Quilio et d'Oscar Pellegrims ont pu être rendus à leur famille. Michel, lui, n'a pas retrouvé son papa. Chaque année, le 8 août, une commémoration se déroule au bois du Casier. à 262 reprises, ont fait tinter la cloche Maria Mater, Orphanorum, offerte par l'Italie. Et sur la grande place de Marcinelle se dresse un monument international aux victimes du travail. Si vous passez dans la région, arrêtez-vous donc un instant à Marcinelle. Depuis 2012, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, formant un ensemble avec le Grand Ornu, le Bois du Luc et Blénimine. On peut y visiter l'espace 8 août 56, les musées du verre et celui de l'industrie, et surtout, surtout, on peut s'y recueillir devant le mur du souvenir. On peut mettre des visages sur les noms de ces 262 hommes qui, par un beau matin d'été, sont descendus dans les puits, le cœur léger, tout réchauffé encore du soleil du pays, des jours passés en famille, à se reposer enfin, dans une mine qui sera, hélas, leur tombeau. Voilà pour ce récit émouvant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Jacqueline van der Beek.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.